From the conference center at Temple Square.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à une session de la 132e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Mes frères et sœurs, au début de cette première session de la 142e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous souhaitons une chaleureuse bienvenue aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici, au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et des présidents généraux, des auxiliaires présents tout au long de cette conférence. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Clay Christiansen et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Tout au sommet des monts » et interprétera à présent « Que chacun de tout son cœur ». Ensuite, John B. Dixon, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our kind and eternal heavenly Father.
Notre bon Père éternel, nous nous inclinons humblement au début de cette première session de la conférence générale de l'Église. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ et pour son sacrifice expiatoire pour toute l'humanité. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours, comme il avait été prédit par les prophètes d'autrefois. Je te demande des bénédictions spéciales pour le président Monson, ses conseillers, le collège des 12 apôtres, et tous les autres qui vont participer dans ces sessions de la conférence. Nous te prions pour que ton esprit soit avec nous, tandis que nous écouterons, apprendrons et mettrons en application les choses que nous allons être enseignées. Nous remettons ces réunions entre tes mains maintenant, au nom saint de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé, Thomas Monson. Après son discours, le chœur chantera « Tu éclaires le chemin ». Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Boyd K. Packer, président du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Cheryl Esplin, deuxième conseillère de la présidence générale de la primaire. Ensuite, Donald L. Hallstrom, de la présidence des 70, s'adressera à nous. Président Monson.
On one occasion, I saw a speaker stand.
À certaines occasions, j'ai vu des orateurs se lever et il y avait des visiteurs. Je regardais à gauche, à droite, l'audience, et ensuite il est parti. Je pense que je ne devrais pas faire ça. Mes chers frères et sœurs, nous voici de nouveau réunis, assemblés dans une conférence générale de l'Église. Je vous souhaite la bienvenue et vous exprime mon amour. Nous nous réunissons tous les 6 mois pour nous fortifier les uns les autres, pour nous encourager, nous réconforter et édifier notre foi. Nous sommes ici pour apprendre. Certains d'entre vous cherchent peut-être des réponses à des questions ou à des problèmes personnels. Certains affrontent des déceptions ou subissent des deuils. Chacun pourra être éclairé, édifié et réconforté quand il ressentira l'Esprit du Seigneur. Si vous devez faire des changements dans votre vie, puissiez-vous trouver la motivation et le courage de le faire en entendant les paroles inspirées qui seront prononcées. Puisse chacun de nous décider à nouveau de vivre de manière à être des fils et des filles dignes de notre Père Céleste. Puissions-nous continuer à faire barrage au mal partout où il se trouve. Comme nous sommes bénis d'être venu sur Terre à une époque comme celle-ci, une époque merveilleuse dans la longue histoire du monde. Nous ne pouvons pas tous être dans cette salle, mais nous savons que nous avons la possibilité de suivre cette conférence grâce aux prodiges de la télévision, de la radio, du câble, des transmissions satellites et de l'Internet, et même des appareils mobiles. Nous sommes tous unis, parlant de nombreuses langues, vivant dans de nombreux pays, mais ayant une seule foi, une seule doctrine et un seul but. Depuis nos modestes débuts, il y a 182 ans, notre présence rayonne aujourd'hui dans le monde entier. Cette grande cause dans laquelle nous sommes engagés continuera d'aller de l'avant et, ce faisant, de changer des vies et d'apporter des bénédictions. Aucune raison, aucune force dans le monde ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il arrive, cette noble cause ira de l'avant. Souvenez-vous des paroles prophétiques de Joseph Smith, le prophète. Aucune main impie ne peut empêcher l'œuvre de progresser. Les persécutions peuvent faire rage. Les émeutiers peuvent s'attrouper. Les armées s'assembler. La calomnie peut diffamer. Mais la vérité de Dieu ira de l'avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu'à ce qu'elle ait pénétré dans tous les continents, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonner à toutes les oreilles, jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise que l'œuvre est accomplie. Beaucoup de choses sont difficiles et posent problème dans le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais beaucoup d'autres sont bonnes et édifiantes. Comme nous le déclarons dans le 13e article de foi, nous recherchons tout ce qui est vertueux, aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Puissions-nous continuer à le faire. Je vous remercie de votre foi et de votre dévouement à l'Évangile. Je vous remercie de l'amour et de la sollicitude que vous témoignez. Je vous remercie du service que vous rendez dans votre paroisse, votre branche, votre pieu ou votre district. C'est ce service qui permet au Seigneur d'accomplir ses desseins ici-bas. Je vous remercie de la gentillesse que vous me témoignez partout où je vais. Je vous remercie de vos prières en ma faveur. J'ai ressenti ces prières et j'en suis extrêmement reconnaissant. Mes frères et sœurs, nous sommes venus ici pour être instruits et inspirés. Vous entendrez de nombreux messages durant les deux prochains jours. Je peux vous assurer que ces hommes et ces femmes qui vont vous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'ils ont préparé leur message. Ils ont été inspirés au sujet de ce qu'ils vont nous dire. Notre Père Céleste se soucie de chacun de nous et de nos besoins. Puissions-nous être remplis de son esprit tandis que nous suivrons cette conférence. C'est là ma prière sincère au nom sacré de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Give the sun. Il y a des années, par une nuit froide dans une gare au Japon, on a frappé à la fenêtre de mon wagon-lit. C'était un garçon portant une chemise en lambeaux et un chiffon sale noué à sa mâchoire enflée. Sa tête était couverte de gale. Il tenait une boîte de conserve rouillée et une cuillère, symbole d'un mendiant orphelin. Comme je m'efforçais d'ouvrir la porte pour lui donner de l'argent, le train se mit en route. Je n'oublierai jamais ce petit garçon affamé, laissé là dans le froid, tenant sa boîte de conserve vide. Je n'oublierai jamais non plus l'impuissance que j'ai ressentie quand le train s'est lentement éloigné et l'a laissé seul sur le quai. Quelques années plus tard, à Cusco, ville des hauteurs des Andes péruviennes, frère A. Théodore Tuttle et moi tenions une réunion de Sainte-Seine dans une longue pièce étroite ouvrant sur la rue. C'était le soir et il faisait très froid. Pendant que frère Tuttle parlait, un petit garçon d'à peu près 6 ans est apparu dans l'entrée. Il ne portait qu'une chemise en lambeaux qui descendait sur ses genoux. Sur notre gauche se trouvait une petite table avec un plateau de pain pour la Sainte-Seine. Cet orphelin affamé a vu le pain et a lentement longé le mur pour s'en approcher. Il était presque arrivé à la table quand une femme dans l'allée l'a vu. D'un mouvement brusque de la tête, elle l'a renvoyé dans la nuit. J'ai gémi intérieurement. Plus tard, le garçon est revenu. Il a longé le mur, jetant un coup d'œil au pain, puis à moi. Quand il a été proche de l'endroit où la femme était et elle l'avait vu à nouveau, je lui ai tendu les bras et il a couru jusqu'à moi. Je l'ai assis sur mes genoux. Puis, de manière symbolique, je l'ai assis sur la chaise de frère Tuttle. Après la prière de clôture, à ma grande peine, le petit garçon affamé s'est enfui dans la nuit. À mon retour, j'ai parlé à Spencer W. Kimball de cette expérience. Il a été très touché et m'a dit « Vous portiez une nation sur vos genoux ». Il m'a répété plus d'une fois « Cette expérience a une signification bien plus grande que vous ne l'imaginez maintenant ». En visitant les pays d'Amérique latine, près d'une centaine de fois, j'ai cherché le visage de ce petit garçon parmi les gens. Je sais maintenant ce que le président Kimball voulait dire. J'ai rencontré un autre garçon grelottant dans les rues de Salt Lake City. C'était tard dans une autre nuit froide d'hiver. Nous sortions d'un hôtel après un dîner de Noël. Sont apparus du bas de la rue 6 ou 8 garçons bruyants. Tous auraient dû être chez eux bien au chaud. L'un des garçons n'avait pas de manteau. Il sautait très rapidement sur place pour se réchauffer. Il a disparu dans une rue adjacente pour rejoindre sans doute un petit appartement misérable et un lit qui n'avait pas assez de couverture pour lui tenir chaud. En remontant les couvertures sur moi cette nuit-là, j'ai prié pour tous les gens qui ne dorment pas dans un lit chaud chez eux. J'étais basé à Osaka, au Japon, quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée. La ville était en ruine et les rues étaient jonchées de pierres, de débris et de cratères de bombes. Bien que la plupart des arbres aient été déracinés, certains étaient toujours debout, les branches et les troncs brisés, et avaient le courage de produire quelques brindilles feuillues. Une petite fille, en sandales et dans un kimono coloré en lambeaux, était activement occupée à ramasser les feuilles jaunes d'un sycomore pour en faire un bouquet. Cette petite enfant ne semblait pas consciente de la dévastation qui l'entourait, tandis qu'elle se hâtait dans les décombres pour ajouter de nouvelles feuilles à sa collection. Elle avait trouvé la seule beauté restant dans son monde. Peut-être devrais-je dire que c'était elle, la seule beauté de son monde. D'une manière que je n'explique pas totalement, penser à elle a fait grandir ma foi. Cet enfant incarnait l'espoir. Mormon a enseigné que les petits-enfants sont vivants dans le Christ et n'ont pas besoin de se repentir. Au début du XXe siècle, 2 missionnaires servaient dans les montagnes du sud des États-Unis. Un jour, du haut d'une colline, ils ont vu un rassemblement de personnes dans une clairière bien plus bas. Les missionnaires ne rencontraient pas souvent de personnes à qui prêcher. Aussi ont-ils décidé de descendre dans la clairière. Un petit garçon s'était noyé, et c'était ses funérailles. Ses parents avaient appelé un prêtre pour qu'il dise quelques mots à propos de leur fils. Les missionnaires se tenaient en retrait quand le prêtre itinérant s'est tourné vers les parents endeuillés et a commencé son sermon. Si les parents espéraient recevoir du réconfort de la part de cet homme d'église, ils ont dû être déçus. Il les a réprimandés sévèrement de ne pas avoir fait baptiser le petit garçon. Ils avaient remis cela à plus tard, pour une raison ou pour une autre, et maintenant, il était trop tard. Il leur a dit, sans aucun ménagement, que leur petit garçon était allé en enfer. C'était de leur faute, ils étaient à blâmer pour son tourment sans fin. À l'issue du sermon, et une fois la tombe recouverte, les missionnaires se sont approchés des parents affligés. Ils ont dit à la mère, « Nous sommes serviteurs du Seigneur et nous avons un message pour vous. » Pendant que les parents en pleurs les écoutaient, les missionnaires leur ont lu les révélations et ont rendu témoignage du rétablissement des clés pour la rédemption des vivants et des morts. J'ai de la compassion pour ce prédicateur. Il a fait du mieux qu'il pouvait avec la lumière et la connaissance qu'il possédait. Mais il y a plus que ce qu'il était capable d'offrir. Il y a la plénitude de l'Évangile. Les missionnaires sont venus pour réconforter, en tant qu'instructeurs, serviteurs du Seigneur et ministres autorisés de l'Évangile de Jésus-Christ. Ces enfants dont j'ai parlé représentent tous les enfants de notre Père Céleste. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Heureux est l'homme qui en a rempli son carquois. Créer la vie est une grande responsabilité pour un couple marié. Toute la difficulté de la condition mortelle consiste à être un parent digne et responsable. Ni l'homme, ni la femme ne peut seul avoir d'enfants. Il était prévu que les enfants aient deux parents, un père et une mère. Aucun autre modèle ne peut remplacer cela. Il y a longtemps, une femme éplorée m'a dit que, quand elle était étudiante, elle avait fait une grave erreur avec son petit ami. Il avait tout préparé pour un avortement. En temps voulu, ils ont terminé leurs études, se sont mariés et ont eu plusieurs autres enfants. Elle m'a dit combien elle était tourmentée en regardant sa famille et ses beaux enfants, de voir dans son esprit la place vide que cet enfant aurait occupée. Si ce couple comprend et applique l'expiation, il saura que ses expériences et le chagrin qui y est attaché pourront être effacés. Aucun chagrin ne durera éternellement. Ce n'est pas facile, mais il n'a jamais été prévu que la vie soit facile ou juste. Le repentir et l'espoir durable que le pardon apporte en vaudront toujours la peine. Un autre jeune couple éploré m'a raconté qu'il venait de consulter un médecin qui lui avait dit qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Cette nouvelle brisait le cœur de ces jeunes conjoints. Ils ont été surpris quand je leur ai répondu qu'ils étaient en réalité plutôt chanceux. Ils se sont demandé pourquoi je disais une chose pareille. Je leur ai dit que leur état était infiniment meilleur que celui d'autres couples qui étaient capables d'être parents, mais qui rejetaient et évitaient égoïstement cette responsabilité. D'autres couples encore ne se marient pas et n'auront donc pas d'enfants. Certains, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont des mères ou des pères seuls. Ce sont des états temporaires, dans le plan éternel des choses, et pas toujours dans la condition mortelle. Les aspirations et les désirs justes seront réalisés. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le but ultime de toute activité dans l'Église est qu'un homme, sa femme et leurs enfants soient heureux au foyer, protégés par les principes et les lois de l'Évangile, dans la sécurité des alliances de la prêtrise éternelle par laquelle ils sont scellés. Mari et femme doivent comprendre que leur premier appel, dont ils ne seront jamais relevés, est vis-à-vis de leur conjoint, puis de leurs enfants. L'une des plus grandes découvertes de la parenté est que nos enfants nous en apprennent bien plus sur ce qui est, sur ce qui compte réellement, que ne l'ont fait nos parents. Nous voyons la vérité dans la prophétie d'Ésaïe, qu'un petit enfant les conduira. À Jérusalem, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains et il partit de là. Dans le livre de Mormon, on lit le récit de la visite de Jésus-Christ dans le Nouveau Monde. Il guérit et bénit le peuple, puis commanda qu'on lui amenât leurs petits-enfants. Néphi rapporte, ils amenèrent leurs petits-enfants et les posèrent à terre tout autour de lui. Et Jésus se tint au milieu d'eux. Et la multitude s'écarta jusqu'à ce qu'ils lui eussent tous été amenés. Puis, il commanda au peuple de s'agenouiller. Entouré des enfants, le Sauveur s'agenouilla et adressa une prière à notre Père Céleste. À la fin de la prière, il pleura. Et il prit leurs petits-enfants un par un et les bénit et pria le Père pour eux. Et lorsqu'il eut fait cela, il pleura de nouveau. Je peux comprendre les sentiments exprimés par le Sauveur pour les enfants. Il y a beaucoup à apprendre de l'exemple qu'il nous a donné en priant pour ses petits-enfants, en les bénissant et en les instruisant. J'étais le 10e d'une famille de 11 enfants. Autant que je sache, ni mon père ni ma mère n'ont eu d'appel en vue dans l'Église. Nos parents ont servi fidèlement dans leur appel le plus important, celui d'être parents. Notre père a dirigé notre foyer en justice, sans jamais de colère ni de crainte. Et l'exemple puissant de notre père a été magnifié par les tendres conseils de notre mère. D'aussi loin que nous pouvons le voir, l'Évangile a une influence puissante dans la vie de chaque membre de la famille Packer, de génération en génération. J'espère être jugé comme étant un homme aussi bon que mon père. Avant d'entendre les mots « c'est bien » de mon Père Céleste, j'espère d'abord les entendre de mon Père mortel. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais reçu l'appel d'apôtre, puis de président du Collège des 12, alors que dans mon foyer, mon père était ce qu'on peut appeler un non-pratiquant. Je ne suis pas le seul membre des 12 à correspondre à cette description. Finalement, je vois et comprends que c'est peut-être en raison de cela que j'ai été appelé. Et je comprends pourquoi, dans tout ce que nous faisons dans l'Église, nous, les dirigeants, devons permettre aux parents et aux enfants de passer du temps en famille. Les dirigeants de la prêtrise doivent s'attacher à rendre l'Église soucieuse de la famille. Beaucoup de choses à propos du respect de l'Évangile de Jésus-Christ ne peuvent être mesurées par ce qui est compté ou inscrit dans les registres d'assistance. Nous nous préoccupons des bâtiments, des budgets, des programmes et des modalités. En faisant cela, il est possible de passer à côté de l'esprit même de l'Évangile de Jésus-Christ. Trop souvent, on vient me voir pour me dire, « Président Packer, ne serait-ce pas bien si... » Généralement, j'arrête la personne et réponds, « Non. » Parce que je soupçonne que ce qui va suivre sera une nouvelle activité ou un nouveau programme qui ajoutera un fardeau de temps et d'argent sur la famille. Le temps en famille est sacré et doit être protégé et respecté. Nous exhortons nos membres à montrer du dévouement à leur famille. Quand nous nous sommes mariés, ma femme et moi avons décidé que nous accepterions les enfants qui nous seraient donnés avec la responsabilité d'être présents à leur naissance et pendant leur croissance. En temps voulu, ils ont fondé leur propre famille. Par deux fois dans notre mariage, à la naissance de l'un de nos petits garçons, un médecin nous a dit « Je ne pense pas que vous allez garder celui-là ». Les deux fois, nous avons répondu que nous donnerions notre vie pour que notre petit garçon garde la sienne. Quand nous avons fait cette proposition, il nous est apparu que ce genre de dévouement est semblable à ce que notre Père Céleste ressent pour chacun d'entre nous. Quelle pensée divine! Au crépuscule de notre vie, Sœur Packer et moi comprenons et avons le témoignage que la famille peut être éternelle. En obéissant aux commandements et en vivant pleinement l'Évangile, nous serons protégés et bénis. Pour ce qui concerne nos enfants, nos petits-enfants et maintenant nos arrière-petits-enfants, notre prière est que chaque membre de notre famille grandissante ait ce même dévouement pour ces petits êtres précieux. Père et mère, la prochaine fois que vous bercerez un nouveau-né dans vos bras, vous pourrez avoir une vision intime des mystères et des buts de la vie. Vous comprendrez mieux pourquoi l'Église est comme elle est et pourquoi la famille est l'organisation de base pour le temps et toute l'éternité. Je rends témoignage que l'Évangile de Jésus-Christ est vrai et que le plan de rédemption, qui s'appelle le plan de bonheur, est un plan pour les familles. Je prie que les familles soient bénies dans l'Église, que les parents protègent leur famille. Et je vous rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
As years pass, many details in my life are becoming more.
Au fil des ans, beaucoup de détails de ma vie deviennent de plus en plus flous, mais le souvenir qui reste le plus clair est celui de la naissance de chacun de nos enfants. Les cieux semblaient si proches, et si j'essaye, je peux presque éprouver les mêmes sentiments de révérence et d'émerveillement que j'ai ressenti à chaque fois qu'un de ces précieux bébés était déposé dans mes bras. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Il connaît et aime chacun d'un amour parfait. Quelle responsabilité sacrée notre Père Céleste nous confie à nous parents en nous associant à lui pour aider ses esprits de choix à devenir ce qu'il sait qu'ils peuvent devenir. Cette bénédiction divine de pouvoir élever nos enfants est une responsabilité qui dépasse de loin ce que nous pouvons gérer toutes seules sans l'aide du Seigneur. Il sait exactement ce que nos enfants ont besoin de savoir, ce qu'ils ont besoin de faire et ce qu'ils ont besoin d'être pour retourner en sa présence. Il donne aux mères et aux pères des instructions et des directives précises par l'intermédiaire des Écritures, de ses prophètes et du Saint-Esprit. Dans une révélation moderne à Joseph Smith, le prophète, le Seigneur commande aux parents d'enseigner à leurs enfants à comprendre la doctrine du repentir, de la foi au Christ, du baptême et du don du Saint-Esprit. Vous remarquerez que le Seigneur ne dit pas simplement que nous devons enseigner la doctrine. Ces instructions sont d'enseigner à nos enfants à comprendre la doctrine. Dans les psaumes, nous lisons « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Enseigner à nos enfants à comprendre, c'est bien plus que simplement communiquer des informations. C'est aider nos enfants à ancrer la doctrine dans leur cœur de façon à ce qu'elle s'intègre à leur être même et se reflète dans leur attitude et leur comportement tout au long de leur vie. Néphi a enseigné que le rôle du Saint-Esprit est de porter la vérité dans le cœur des enfants des hommes. Notre rôle en tant que parents est de faire tout ce que nous pouvons pour créer une atmosphère où nos enfants peuvent sentir l'influence de l'Esprit et puis de les aider à reconnaître ce que sont ces sentiments. Je me souviens d'un appel téléphonique que j'ai reçu il y a quelques années de ma fille, Michelle. Pleine d'émotion, elle a dit « Maman, je viens juste d'avoir la plus incroyable des expériences avec Ashley. » Ashley est sa fille qui était âgée de 5 ans à l'époque. Michelle a décrit la matinée, disant que Ashley et Andrew, 3 ans, n'arrêtaient pas de se chamailler. Elle ne voulait pas partager avec l'autre et l'autre la frappait. Après les avoir aidés à régler leurs différends, Michelle est allée s'occuper du bébé. Peu après, Ashley a déboulé, furieuse, parce qu'Andrew ne voulait plus partager. Michelle a rappelé à Ashley l'engagement qu'ils avaient pris en soirée familiale d'être plus gentils les uns envers les autres. Elle a demandé à Ashley si elle voulait prier et demander l'aide de notre Père Céleste, mais Ashley était toujours furieuse et a répondu « non ». Lorsqu'elle a demandé à Ashley si elle croyait que son Père Céleste répondrait à sa prière, elle a répondu qu'elle ne savait pas. Elle lui a demandé d'essayer et lui a gentiment pris les mains et s'est agenouillée avec elle. Michelle a proposé à Ashley de demander à son Père Céleste d'aider Andrew à partager et de l'aider, elle, à être gentille. La pensée que notre Père Céleste pourrait aider son petit frère à partager a dû éveiller l'intérêt d'Ashley et elle a commencé à prier en demandant d'abord à son Père Céleste d'aider Andrew à partager. En lui demandant de l'aider à être gentil, elle s'est mise à pleurer. Elle a fini sa prière et a enfoui la tête dans l'épaule de sa mère. Michelle l'a prise dans ses bras et lui a demandé pourquoi elle pleurait. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Sa mère a dit « Je pense savoir pourquoi tu pleures. Tu te sens bien à l'intérieur ?» Ashley a hoché la tête et sa mère a continué. « C'est l'esprit qui t'aide à te sentir comme ça. C'est la manière dont notre Père Céleste dit qu'il t'aide et qu'il t'aidera. » Elle lui a demandé si elle croyait cela, si elle croyait que son Père Céleste pouvait l'aider. Les yeux pleins de larmes, elle a dit oui. Parfois, la manière la plus puissante d'apprendre à nos enfants à comprendre un point de doctrine est de l'enseigner dans le contexte de ce qu'ils vivent au moment même. Ces occasions spontanées et non planifiées arrivent dans le cours normal de la vie de famille. Elles passent très vite et nous devons donc être attentives à saisir l'occasion d'enseigner lorsque nos enfants viennent nous trouver avec une question ou un souci, lorsqu'ils ont des difficultés à s'entendre avec leurs frères et sœurs ou leurs amis, lorsqu'ils ont besoin de maîtriser leur colère, lorsqu'ils font une erreur ou lorsqu'ils doivent prendre une décision. Si nous sommes prêts et nous laissons guider par l'Esprit dans ces situations, nos enfants seront instruits de manière plus efficace et comprendront mieux. Les occasions d'enseigner qui se présentent lorsque nous planifions soigneusement nos prières familiales, l'étude des Écritures en famille, la soirée familiale et les autres activités familiales sont tout aussi importantes. Dans toutes les situations d'enseignement, la meilleure manière de favoriser tout apprentissage et toute compréhension est de le faire dans une atmosphère chaleureuse et pleine d'amour où l'esprit est présent. 2 mois environ avant que ces enfants fêtent leurs 8 ans, un père avait prévu du temps chaque famille pour les préparer au baptême. Sa fille a dit que lorsque ce fut son tour, il lui donna un journal personnel, puis ils se sont assis, juste eux deux, et ont parlé et échangé leurs sentiments à propos des principes de l'Évangile. Au cours de la discussion, il lui a fait dessiner une aide visuelle. Elle représentait l'existence prémortelle, cette vie sur terre et chaque étape qu'elle avait besoin de franchir pour retourner vivre auprès de son Père Céleste. Il lui a rendu son témoignage de chaque étape du plan du salut à mesure qu'elle la lui enseignait. Lorsque devenue adulte, elle s'est souvenue de cette expérience. Sa fille a dit « Je n'oublierai jamais l'amour de mon père que j'ai ressenti pendant qu'il passait du temps avec moi. » Je crois que cette expérience était une des principales raisons pour lesquelles j'avais le témoignage de l'Évangile lorsque j'ai été baptisée. Enseigner pour faire comprendre nécessite des efforts constants et de la détermination. Cela nécessite d'enseigner par le précepte et par l'exemple, et particulièrement en aidant nos enfants à vivre ce qu'ils apprennent. Harold Billy a enseigné, « Il est beaucoup plus difficile de croire en un principe de l'Évangile quand on ne l'a pas mis en pratique. » J'ai appris à prier en m'agenouillant avec ma famille pendant la prière en famille. J'ai appris le langage de la prière en écoutant mes parents prier et quand ils m'ont aidé à dire mes premières prières. J'ai appris que je pouvais parler à mon Père Céleste et lui demander de me guider. Chaque matin, sans faute, ma mère et mon père nous réunissaient autour de la table de la cuisine avant le petit déjeuner et nous nous agenouillions pour la prière en famille. Nous prions à chaque repas. Chaque soir, avant d'aller au lit, nous nous agenouillions dans le salon et finissions la journée avec une prière en famille. Même s'il y avait beaucoup de choses que l'enfant que j'étais ne comprenait pas à propos de la prière, c'est devenu une partie si importante de ma vie que cela m'est resté. Je continue toujours d'apprendre et ma compréhension du pouvoir de la prière continue de grandir. Jeffrey Holland a dit « Nous comprenons tous que la réussite du message de l'Évangile repose sur son enseignement, sa compréhension, puis son application de telle manière que la promesse de bonheur et de salut qu'il contient se réalise. Apprendre à pleinement comprendre la doctrine de l'Évangile est un processus qui dure toute une vie et se fait ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Quand les enfants apprennent et mettent en pratique ce qu'ils apprennent, leur compréhension s'accroît, ce qui conduit à un nouvel apprentissage, une nouvelle mise en pratique et même à une compréhension plus grande et plus durable. Nous pouvons savoir que nos enfants commencent à comprendre la doctrine lorsqu'elle transparaît dans leur attitude et leurs actions sans contrainte extérieure ni récompense. Quand ils apprennent à comprendre la doctrine de l'Évangile, nos enfants deviennent plus autonomes et plus responsables. Ils participent à la solution de nos problèmes familiaux et contribuent de manière constructive à l'ambiance du foyer et au succès de notre famille. Nous enseignons à nos enfants à comprendre en profitant de toutes les occasions d'enseigner, en invitant l'esprit, en montrant l'exemple et en les aidant à vivre ce qu'ils apprennent. Quand nous regardons dans les yeux d'un tout petit bébé, cela nous rappelle le cantique. Je suis enfant de Dieu et je dois tout savoir. Je dois comprendre sa parole avant qu'il soit trop tard. Conduis-moi et marche avec moi sur le bon chemin. Apprends-moi comment agir pour le connaître enfin. Puissions-nous le faire. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
I love the gospel of Jesus Christ.
J'aime l'évangile de Jésus-Christ et l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Parfois, nous utilisons indifféremment les termes « évangile » et « église », mais ce n'est pas la même chose. Ils sont cependant intimement liés et nous avons besoin des deux. L'évangile est le glorieux plan de Dieu qui nous donne, à nous, ses enfants, l'occasion de recevoir tout ce que le Père a. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle et qui est décrit comme étant le plus grand de tous les dons de Dieu. Une partie essentielle de ce plan est notre expérience terrestre, un temps pour acquérir la foi, pour nous repentir et nous réconcilier avec Dieu. Sachant que nos faiblesses humaines rendraient cette vie profondément difficile, puisqu'il y aurait une opposition en toute chose et que nous ne pourrions pas purifier nos propres péchés, il nous fallait un sauveur. Quand Elohim, le Dieu éternel et Père de tous nos esprits, a présenté son plan du salut, l'un d'entre nous a dit « Me voici, envoie-moi ». Son nom était Jéhovah. Né d'un Père céleste, à la fois spirituellement et physiquement, il possédait l'omnipotence pour vaincre le monde. Né d'une mère terrestre, il était sujet à la douleur et à la souffrance de la condition mortelle. Le grand Jéhovah s'appelait aussi Jésus, et on lui a aussi donné le titre de Christ, ce qui signifie le Messie au loin. Le couronnement de son ministère a été l'expiation, où Jésus le Christ est descendu au-dessous de tout, ce qui lui a permis de payer une rançon rédemptrice pour chacun de nous. Jésus-Christ a fondé son Église pendant son ministère terrestre. Le Sauveur a établi son Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dans cette dispensation de la plénitude des temps, le Seigneur a rétabli ce qui avait existé et a dit en disant explicitement à Joseph Smith, le prophète, « J'établirai une Église par ta main ». Jésus-Christ était et est le chef de son Église, et il est représenté sur terre par des prophètes qui détiennent une autorité apostolique. C'est une Église magnifique. son organisation, son efficacité et sa bonté pure sont respectées par toutes les personnes qui cherchent sincèrement à la comprendre. L'Église a des programmes pour les enfants, les jeunes, les hommes et les femmes. Elle a plus de 18 000 belles églises. 136 temples majestueux sont répartis sur la terre et 30 autres sont annoncés ou en construction. Une armée de 56 000 missionnaires, des jeunes et des moins jeunes, œuvrent dans 150 pays. L'œuvre humanitaire mondiale de l'Église est une merveilleuse démonstration de la générosité de nos membres. Notre système d'entraide prend soin de nos membres et favorise l'autonomie d'une manière que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'Église compte des dirigeants laïcs désintéressés et une communauté de saints qui sont disposés à se servir les uns les autres d'une façon remarquable. Il n'y a rien de pareil à l'Église, où que ce soit dans le monde. Lorsque je suis né, mes parents vivaient dans une maison minuscule dans les jardins de l'une de nos grandes églises historiques, le tabernacle d'Honolulu. Je présente maintenant mes excuses à mes amis bien-aimés de l'épiscopat président qui supervisent les bâtiments de l'église. Mais enfant, j'ai grimpé et rampé sur chaque centimètre de cette propriété, depuis le fond du bassin réfléchissant jusqu'en haut de l'intérieur de l'imposante flèche éclairée. Nous nous balancions même, comme Tarzan, sur les longues lianes qui pendaient des énormes banians qu'on trouve sur le terrain. L'Église était tout pour nous. Nous assistions à de nombreuses réunions, encore plus que nous n'en avons aujourd'hui. Nous allions à la primaire le jeudi après-midi. Les réunions de la société de secours avaient lieu le mardi matin. Le mercredi soir, il y avait la SAM pour les jeunes. Les activités de la paroisse avaient lieu le samedi. Le dimanche matin, les hommes, jeunes et adultes, allaient à la réunion de prêtrise. Vers midi, nous assistions à l'école du dimanche, puis nous revenions le soir pour la réunion de Sainte-Seine. Avec les allées et venues, et les réunions s'étalant sur toute la journée du dimanche et la plupart des autres jours de la semaine, les activités de l'Église semblaient accaparer tout notre temps. Autant j'aimais l'Église, autant c'est pendant mon enfance que pour la première fois, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de plus. Quand j'avais 5 ans, une grande conférence a eu lieu dans le tabernacle. Nous avons descendu le chemin où nous vivions jusqu'à un petit pont conduisant à l'imposante église et nous nous sommes assis vers le 10e rang de la grande salle de culte. David O'Mackay, alors président de l'église, a pris la parole à cette réunion qu'il présidait. Je ne me rappelle rien de ce qu'il a dit, mais je me souviens encore très bien de ce que j'ai vu et ressenti. Le président Mackay portait un costume couleur crème, et avec ses cheveux blancs ondulés, il semblait très majestueux. Dans la tradition des îles, il portait un triple collier d'œillets rouges. Pendant qu'il parlait, j'ai ressenti quelque chose d'intense et de très personnel. J'ai plus tard compris que je ressentais l'influence du Saint-Esprit. Nous avons chanté le cantique de clôture. Qui donc est au Seigneur? Voici venu le temps de demander sans peur. Qui donc est au Seigneur? À ces paroles chantées par près de 2000 personnes, mais qui semblait ne poser la question qu'à moi seul, je voulais me lever et répondre « Moi ». Certains membres en sont venus à penser qu'être pratiquant dans l'Église est le but ultime. Mais il y a là un danger. Il est possible d'être pratiquant dans l'Église et non pratiquant dans l'Évangile. Je vais développer. Être pratiquant dans l'Église est un but grandement désirable. Cependant, c'est insuffisant. Être pratiquant dans l'Église est une indication extérieure de notre aspiration spirituelle. Si nous allons à nos réunions, détenons et remplissons des responsabilités de l'Église et servons les autres, c'est observable publiquement. Par contre, les choses de l'Évangile sont habituellement moins visibles et plus difficiles à mesurer. Mais elles ont une plus grande importance éternelle. Par exemple, à quel point avons-nous vraiment la foi? À quel point sommes-nous repentants? Quelle place accordons-nous aux ordonnances dans notre vie? À quel point sommes-nous concentrés sur nos alliances? Je le répète, nous avons besoin de l'Évangile et de l'Église. En fait, le but de l'Église est de nous aider à vivre l'Évangile. Nous nous demandons souvent comment quelqu'un qui a été pleinement pratiquant dans l'Église dans sa jeunesse peut-il ne plus l'être quand il est plus âgé? Pourquoi un adulte qui venait régulièrement à l'Église et y œuvrait arrête-t-il de venir? Comment une personne qui a été déçue par un dirigeant ou un autre membre permet-elle que cela mette fin à sa participation à l'Église? Peut-être que la raison est qu'elle n'était pas suffisamment convertie à l'Évangile, aux choses de l'éternité. Je suggère trois façons fondamentales de faire de l'Évangile notre fondation. Approfondir notre compréhension de la divinité. Une connaissance et un amour soutenu pour les trois membres de la divinité sont indispensables. Priez le Père avec conviction, au nom du Fils, et recherchez l'inspiration du Saint-Esprit. Associez à une étude régulière et une humble méditation, construisez régulièrement une foi inébranlable en Jésus-Christ. Car comment un homme connaît-il le Maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et loin des pensées et des intentions de son cœur? Concentrez-vous sur les ordonnances et les alliances. S'il y en a, parmi les ordonnances essentielles, certaines que vous n'avez pas accomplies dans votre vie, préparez-vous consciencieusement à recevoir chacune d'entre elles. Ensuite, nous devons déterminer la discipline qui nous permettra de vivre fidèles à nos alliances en utilisant pleinement le don hebdomadaire qu'est la Sainte Cène. Nombre d'entre nous ne sont pas régulièrement changés par son pouvoir purificateur à cause de leur manque de révérence pour cette ordonnance sainte. Unissez l'Évangile à l'Église. Du fait que nous nous concentrons sur l'Évangile, l'Église sera une plus grande bénédiction dans notre vie. Et du fait que nous allons à chaque réunion préparer à chercher la connaissance par l'étude et aussi par la foi, le Saint-Esprit sera notre instructeur. Si nous allons pour nous distraire, nous serons souvent déçus. On a demandé un jour au président Kimball, « Que faites-vous quand vous assistez à une réunion de Sainte-Cène ennuyeuse ?» Il a répondu, « Je ne sais pas. Cela ne m'est jamais arrivé. » Dans notre vie, nous devons désirer ce qui s'est passé après que le Seigneur est allé parmi le peuple du Nouveau Monde et a fondé son Église. Les Écritures disent, « Et il arriva qu'ils allèrent ainsi parmi tout le peuple de Néphi et prêchèrent l'Évangile du Christ à tout le peuple à la surface du pays. Et il fut converti au Seigneur et fut uni à l'Église du Christ. Et ainsi, le peuple de cette génération fut béni. » Le Seigneur veut que les membres de son Église soient pleinement convertis à son Évangile. C'est la seule façon sûre d'avoir une sécurité spirituelle maintenant et le bonheur pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
The choir and congregation will now
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter « Quel fondement ferme ». Après le cantique, Paul et Kolleker des 70 nous adressera la parole. Il sera suivi de Dallin H. Hawkes du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite ces mots d'amour. Vous assistez à la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
J'aime être avec les missionnaires à plein temps. Ils sont pleins de foi, d'espérance et de véritable charité. Leur expérience missionnaire est comme une mini-vie concentrée en 18 ou 24 mois. Ils arrivent comme des nouveaux-nés avec une grande soif d'apprendre, et quand ils repartent, ce sont des adultes mûrs, prêts à vaincre toutes les difficultés, quelles qu'elles soient, qui se présentent à eux. J'aime aussi les missionnaires d'âge mûr, dévoués, qui sont pleins de patience, de sagesse et d'une calme assurance. Ils apportent un don de stabilité et d'amour à la jeunesse énergique qui les entoure. Ensemble, ils constituent une grande force persévérante qui a un effet profond sur eux-mêmes et sur les personnes qui sont touchées par leur service. J'ai récemment écouté deux de ces formidables jeunes missionnaires parler de leurs expériences et de leurs efforts. Ils réfléchissaient aux personnes avec lesquelles ils avaient pris contact ce jour-là, et dont certaines étaient plus ouvertes que d'autres. Ils se demandaient comment pouvons-nous aider chacune à avoir le désir d'en savoir plus sur notre Père Céleste? Comment les aider à ressentir son esprit? Comment leur faire savoir que nous les aimons? J'imaginais ces deux jeunes gens 3 ou 4 ans plus tard, après la fin de leur mission. Je les voyais ayant trouvé leur conjoint éternel et œuvrant dans un collège d'anciens ou instruisant un groupe de jeunes garçons. Alors, au lieu de penser à leurs amis de l'Église, ils se posaient les mêmes questions concernant les membres de leur collège ou les jeunes qu'ils avaient la charge d'édifier. Je voyais comment leur expérience missionnaire pouvait être appliquée et servir de modèle pour instruire d'autres personnes tout le reste de leur vie. Quand les membres de cette armée de disciples justes rentrent chez eux dans de nombreux pays, ils peuvent apporter une contribution clé à l'établissement de l'Église. Nous vous remercions, missionnaires fidèles. Lehi, prophète du Livre de Mormon, a pu se poser les mêmes questions avec ses missionnaires en écoutant les réponses de ses fils à l'orientation et à la vision qu'il avait reçue. Et c'est ainsi que Laman et Lémuel, les aînés, murmuraient contre leur père. Et ils murmuraient parce qu'ils ne connaissaient pas la manière d'agir du Dieu qui les avait créés. Nous avons peut-être tous ressenti la même frustration que Lehi avec ses deux fils aînés. Face à un enfant à la dérive, un ami de l'Église qui ne peut pas s'engager ou un ancien potentiel passif, notre cœur se serre contre celui de Lehi et nous demandons « Comment puis-je les aider à ressentir l'Esprit, à l'écouter pour ne pas être capté par des distractions du monde ?» J'ai à l'esprit deux écritures qui peuvent nous aider à trouver notre chemin au travers de ces distractions et sentir la force de son amour. Néphi donne par son expérience une clé qui ouvre la porte de l'apprentissage. Moi, Néphi, ayant aussi le grand désir de connaître les mystères de Dieu, c'est pourquoi j'invoquais le Seigneur. Et voici, il me visita et adoucit mon cœur, de sorte que je crus toutes les paroles qui avaient été dites par mon Père. C'est pourquoi je ne me rebellais pas contre lui comme ses frères. Quand nous éveillons le désir de savoir, cela nous donne la capacité spirituelle d'entendre la voix des cieux. Tous les missionnaires, parents, instructeurs, dirigeants et membres ont la responsabilité de chercher le moyen d'éveiller et de faire grandir ce désir. En sentant ce désir grandir dans notre cœur, nous nous préparons à bénéficier de ce que nous apprend la deuxième écriture que voici. En juin 1831, tandis que les premiers dirigeants de l'Église étaient appelés, il fut dit à Joseph, « Satan est de tous côtés dans le pays, et il s'en va tromper les nations. » Pour combattre cette influence néfaste, le Seigneur a dit qu'il nous donnerait un modèle en toutes choses, afin que nous ne soyons pas trompés. Un modèle est un guide, une suite d'étapes, ou un chemin à suivre pour rester axé sur le dessein de Dieu. Si nous le suivons, nous resterons humbles, attentifs et capables de distinguer la voix du Saint-Esprit des autres voix qui nous détournent et nous égarent. Puis le Seigneur nous dit, « Celui qui tremble sous ma puissance sera rendu fort, et les fruits qu'il produira seront les louanges et la sagesse, selon les révélations et les vérités que je vous ai données. » Une humble prière faite avec une intention réelle permet au Saint-Esprit de nous toucher et de nous aider à nous souvenir de ce que nous savions avant de naître dans la condition mortelle. En comprenant plus clairement le plan de notre Père Céleste pour nous, nous commençons à comprendre notre responsabilité d'aider notre prochain à apprendre et à comprendre ce plan. La manière dont nous vivons et appliquons l'Évangile est étroitement liée à l'aide que nous apportons aux autres pour qu'ils se souviennent. Si nous vivons réellement l'Évangile comme Jésus-Christ l'a enseigné, notre capacité d'aider les autres grandit. Le récit suivant est un exemple de la manière dont ce principe peut opérer. Deux jeunes missionnaires frappent à une porte, espérant trouver quelqu'un qui recevra leur message. La porte s'ouvre et un homme assez imposant les apostrophe. « Je pensais vous avoir dit de ne plus frapper à ma porte. Je vous avais averti que si vous reveniez, cela ne se passerait pas bien. Alors laissez-moi tranquille. » Et il claque la porte. Tandis qu'il s'éloigne, le missionnaire le plus âgé, le plus expérimenté, prend le plus jeune dans son bras pour le consoler et l'encourager. À leur insu, l'homme les regarde par la fenêtre pour s'assurer qu'ils ont bien compris son message. Il s'attendait à les voir rire et se moquer de son accueil brusque, à leur tentative de visite. Mais en voyant la gentillesse que se manifestent les deux missionnaires, son cœur s'adoucit instantanément. Il rouvre la porte et demande aux missionnaires de revenir lui donner leur message. C'est quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu et que nous suivons son modèle que son esprit se fait sentir. Le Sauveur a enseigné, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ce principe d'amour mutuel et d'acquisition de la capacité d'être centré sur le Christ en pensée, en parole et en action est fondamental pour devenir disciple du Christ et pour enseigner son Évangile. L'éveil de ce désir nous prépare à rechercher les modèles promis. La recherche des modèles nous mène à la doctrine du Christ, comme elle est enseignée par le Sauveur et ses prophètes. Un modèle de cette doctrine est celui de la persévérance jusqu'à la fin. Et bénis sont ceux qui chercheront à faire sortir ma Sion en ce jour, car ils auront le don et le pouvoir du Saint-Esprit. Et s'ils persévèrent jusqu'à la fin, ils seront élevés au dernier jour et seront sauvés dans le royaume éternel de l'agneau. Quel est le moyen fondamental d'arriver à profiter du don et du pouvoir du Saint-Esprit? C'est le pouvoir que nous acquérons en étant des disciples fidèles de Jésus-Christ. C'est notre amour pour lui et pour notre prochain. Grâce à son amour, la bénédiction de la résurrection est donnée à tous. C'est le Sauveur qui a défini le modèle d'amour lorsqu'il nous a entendu enseigner. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Le président Hinckley nous a enseigné, aimer le Seigneur n'est pas un simple conseil. Ce n'est pas un simple vœu pieux. C'est un commandement. L'amour de Dieu est la racine de toute vertu, de toute bonté, de toute force de caractère, de toute fidélité à faire de bonnes actions. De plus, son plan a conçu le modèle de l'organisation familiale pour nous aider à apprendre, appliquer et comprendre le pouvoir de l'amour. Le jour où ma famille a été constituée, ma gentille Anne et moi sommes allés au temple et avons contracté l'alliance du mariage. Je pensais l'aimer énormément ce jour-là, mais je ne faisais que commencer à avoir la vision de l'amour. À l'arrivée de chacun de nos enfants et petits-enfants dans notre vie, notre amour s'est étendu à chacun d'eux également. Il n'y a, semble-t-il, pas de limite à la capacité d'expansion de l'amour. Se sentir aimé par notre Père Céleste est comme une attraction gravitationnelle vers les cieux. Si nous retirons les distractions qui nous tirent en bas vers le monde et si nous exerçons notre libre arbitre pour rechercher Dieu, notre cœur s'ouvre à une force céleste qui nous tire vers lui. Néphi a décrit son impact en disant que sa chair en était consumée. Ce même pouvoir a amené Alma à chanter le cantique de l'amour rédempteur. Mormon en a été tellement touché qu'il nous a recommandé de prier le Père de toute l'énergie de notre cœur afin d'être rempli de cet amour. Les Écritures anciennes et modernes sont remplies de rappels de l'amour éternel de notre Père Céleste pour ses enfants. Je sais que notre Père Céleste a constamment les bras tendus, qu'il est prêt, toujours prêt à entendre, à prendre chacun de nous dans ses bras et à lui dire de sa voix douce et perçante « Je t'aime ». Grâce au modèle divin de la famille, nous comprenons plus pleinement comment notre Père Céleste aime véritablement chacun de nous de manière égale et pleine. Je témoigne que c'est vrai. Dieu nous connaît et nous aime. Il nous a donné une vision de son lieu saint et il a appelé des prophètes et des apôtres pour enseigner les principes et les modèles qui nous ramèneront à lui. Si nous nous efforçons d'éveiller en nous et chez les autres le désir de savoir et vivons selon les modèles que nous découvrons, nous serons attirés vers lui. Je témoigne que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, notre exemple et notre Rédempteur bien-aimé. Au nom de, que j'exprime au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ a été appelé l'événement le plus marquant de tous, depuis le matin de la création jusqu'au temps infini de l'éternité. Ce sacrifice est au centre du message de tous les prophètes. Il a été préfiguré par les sacrifices d'animaux prescrits par la loi de Moïse. Un prophète a déclaré que tout leur sens réside dans le fait qu'ils annoncent ce grand et dernier sacrifice. Oui, ce sacrifice infini et éternel du Fils de Dieu. Jésus-Christ a enduré une souffrance incompréhensible pour s'offrir en sacrifice pour les péchés de tous. Ce sacrifice offrait le bien absolu, l'agneau pur et sans défaut pour la mesure absolue du mal, les péchés du monde entier. Selon les paroles mémorables d'Eliza R. Snow, « Il vint sur terre de plein gré et gage précieux, son sang, sa vie, il a donné pour nous ouvrir les cieux. » Ce sacrifice, l'expiation de Jésus-Christ, est au centre du plan du salut. La souffrance incompréhensible de Jésus-Christ a mis fin au sacrifice par effusion de sang, mais elle n'a pas mis fin à l'importance du sacrifice dans le plan de l'Évangile. Notre Sauveur nous demande de continuer d'offrir des sacrifices, mais ce qu'il commande maintenant, c'est de lui offrir en sacrifice un cœur brisé et un esprit contrit. Il commande aussi à chacun de nous de nous aimer et de nous servir les uns les autres, dans le fond, de copier à une petite échelle son sacrifice à lui en faisant celui de notre temps et de nos priorités égoïstes. Dans un cantique inspiré, nous chantons « Que de faveurs viennent du sacrifice ». Je vais parler des sacrifices que nous faisons sur terre et que notre Sauveur nous demande de faire. Je ne parlerai pas des sacrifices que nous sommes obligés de faire ou des actes qui peuvent être motivés par un avantage personnel plutôt que par le service ou le sacrifice. L'histoire du christianisme est marquée par le sacrifice, y compris le sacrifice suprême. Au début de l'ère chrétienne, à Rome, des milliers ont connu le martyre pour leur foi en Jésus-Christ. Au cours des siècles qui ont suivi, alors que les controverses doctrinales divisaient les chrétiens, certains groupes en persécutaient d'autres et les mettaient même à mort. Les chrétiens tués par d'autres chrétiens sont les martyrs les plus tragiques du christianisme. Beaucoup de chrétiens se sont volontairement sacrifiés, motivés par leur foi en Christ et le désir de le servir. Certains ont choisi de consacrer leur vie entière au service du Maître. Ce groupe noble comprend les ordres religieux de l'Église catholique et les personnes qui ont rendu service toute leur vie comme missionnaires chrétiens des différentes confessions protestantes. Leur exemple est motivant et inspirant. Mais la plupart des croyants ne sont pas censés consacrer leur vie entière au service de leur religion, ni capables de le faire. Pour la plupart des disciples du Christ, le sacrifice implique ce que nous pouvons faire quotidiennement dans notre vie personnelle ordinaire. À cet égard, je ne connais aucun groupe dont les membres font plus de sacrifices que les saints des derniers jours. Leur sacrifice, vos sacrifices, mes frères et sœurs, contraste avec la recherche matérialiste habituelle de la satisfaction personnelle. Les premiers exemples que je donnerai sont ceux de nos pionniers mormons. Le sacrifice héroïque de leur vie, de leurs relations familiales, de leur foyer et de leur confort sont à la base de l'Évangile rétabli. Sarah Rich exprime les motivations de ses pionniers quand elle décrit son mari, Charles, appelé à partir en mission. C'était vraiment une période difficile pour moi, ainsi que pour mon mari. Mais le devoir nous appelait à nous séparer pour un temps. Et le fait de savoir que nous obéissions à la volonté du Seigneur nous poussait à sacrifier nos sentiments personnels pour aider à accomplir l'œuvre, d'aider à édifier le royaume de Dieu sur la terre. Actuellement, la force la plus visible de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est le service désintéressé et le sacrifice de ses membres. Avant la consécration d'un de nos temples, un ecclésiastique chrétien a demandé au président Hinckley pourquoi le temple ne contenait aucune représentation de la croix, le symbole le plus courant du christianisme. Le président Hinckley a répondu que le symbole de notre foi chrétienne est la vie de nos membres. Notre vie de service et de sacrifice est véritablement l'expression la plus juste de notre engagement à servir le Maître et nos semblables. Il n'y a pas de clergé professionnel formé et salarié de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Par conséquent, les membres laïcs qui sont appelés à diriger et à servir nos assemblées doivent porter toute la charge de nos nombreux programmes, réunions et activités de l'Église. Ils font cela dans plus de 14 000 assemblées, rien qu'aux États-Unis et au Canada. Nous ne sommes bien sûr pas les seuls à avoir dans nos assemblées des membres laïcs qui sont instructeurs ou dirigeants laïcs. Mais c'est la quantité de temps consacré par nos membres à se former mutuellement et à s'entraider qui est unique par son importance. Nos efforts pour que dans nos assemblées, chaque famille soit visitée tous les mois par des instructeurs au foyer et pour que chaque femme adulte reçoive mensuellement la visite d'instructrices visiteuses de la société de secours en sont des exemples. Nous n'avons pas connaissance d'un service comparable dans aucune organisation dans le monde. L'exemple le mieux connu du service et du sacrifice propre au sein des derniers jours est le travail de nos missionnaires. Il y a actuellement plus de 50 000 jeunes gens et jeunes filles et 5 000 hommes et femmes. Ils consacrent 6 mois à 2 ans de leur vie à enseigner l'Évangile de Jésus-Christ et à fournir un service humanitaire dans plus de 160 pays du monde. Leur travail implique toujours un sacrifice, notamment les années qu'ils consacrent à l'œuvre du Seigneur, et également les sacrifices accomplis pour fournir les fonds pour subvenir à leurs besoins. Les personnes restées à la maison, les parents et d'autres membres de la famille, font aussi des sacrifices en renonçant à la compagnie et au service des missionnaires qu'ils envoient. Par exemple, un jeune Brésilien a reçu un appel en mission alors qu'il travaillait pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs après le décès de son père et de sa mère. Une autorité générale a décrit ses enfants en train de tenir conseil et de se souvenir que leurs parents décédés leur avait enseigné à toujours être prêts à servir le Seigneur. Le jeune homme a accepté son appel en mission et le frère de 16 ans a pris la responsabilité de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. La plupart d'entre nous connaissent de nombreux autres exemples de sacrifices pour faire une mission ou pour aider un missionnaire. Nous n'avons pas connaissance d'un service bénévole et d'un sacrifice volontaire comparable dans aucune organisation dans le monde. On nous demande souvent, comment persuadez-vous vos jeunes et vos membres plus âgés de laisser leurs études ou leur retraite pour se sacrifier de cette façon? J'en ai entendu beaucoup donner cette explication. Sachant ce que le Sauveur a fait pour moi, sa disposition à souffrir pour mes péchés et à surmonter la mort pour que je puisse vivre à nouveau, j'ai le sentiment que c'est un honneur de faire le petit sacrifice que l'on me demande à son service. Je veux transmettre la compréhension qu'il m'a donnée. Comment fait-on pour persuader de tels disciples du Christ de servir? Comme un prophète l'a expliqué, il suffit de le leur demander. D'autres sacrifices résultant du service missionnaire sont ceux des personnes qui donnent suite aux enseignements des missionnaires et deviennent membres de l'Église. Pour de nombreux convertis, ces sacrifices sont considérables et comprennent la perte des amis et des relations familiales. Il y a de nombreuses années, pendant cette conférence, on a parlé d'un jeune homme qui a découvert l'Évangile rétabli pendant qu'il faisait ses études aux États-Unis. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans son pays natal, le président Hinckley lui a demandé ce qui allait lui arriver quand il rentrerait chez lui. Le jeune homme a répondu « Ma famille sera déçue. Elle me rejettera probablement et fera comme si j'étais mort. Quant à mon avenir et à ma carrière, je risque de voir se fermer toutes les portes. » Le président Hinckley a demandé « Êtes-vous disposé à payer un tel prix pour l'Évangile ?» Les larmes aux yeux, le jeune homme a répondu « Il est vrai, n'est-ce pas ?» Quand cela fut confirmé, il répondit « Alors rien d'autre ne compte. » Voilà l'esprit de sacrifice qui anime beaucoup de nos nouveaux membres. D'autres exemples de service et de sacrifice se manifestent dans la vie des membres fidèles qui œuvrent dans nos temples. Le service au temple est propre au sein des derniers jours, mais tous les chrétiens doivent pouvoir comprendre l'importance d'un tel sacrifice. Nous, saints des derniers jours, n'avons pas de tradition de service au sein d'un monastère, mais nous pouvons toutefois comprendre et respecter le sacrifice des personnes dont la foi chrétienne les motive à consacrer leur vie à cette activité religieuse. L'année dernière, au cours de cette conférence, le président Monson a raconté un exemple de sacrifice en rapport avec le service au temple. Sur une île lointaine du Pacifique, un père, saint des derniers jours fidèle, a fait pendant 6 ans un travail physiquement pénible, loin de chez lui, pour gagner l'argent nécessaire pour emmener sa femme et ses 10 enfants pour être mariés et scellés pour l'éternité dans le temple de Nouvelle-Zélande. Le président Monson a expliqué « Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du temple savent qu'aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. » Je suis reconnaissant des exemples merveilleux d'amour chrétien, de service et de sacrifice que j'ai vus parmi les saints des derniers jours. Je vous vois remplir vos appels dans l'Église, souvent au prix de grands sacrifices de temps et de moyens. Je vous vois faire des missions à vos propres frais. Je vous vois faire de bon cœur, don de vos talents professionnels au service de vos semblables. Je vous vois prendre soin des pauvres par vos efforts personnels et en contribuant au programme d'entraide et au service humanitaire de l'Église. Tout ceci est confirmé par une étude nationale qui a conclu que les membres pratiquants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours se portent davantage bénévoles et font plus de dons que l'Américain moyen. et qu'ils donnent plus généreusement de leur temps et de leur argent que la tranche supérieure de 20% des personnes religieuses en Amérique. De tels exemples nous fortifient tous. Ils nous rappellent les enseignements du Sauveur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est peut-être dans notre famille que l'on trouve les exemples les plus courants et les plus importants de service et de sacrifice désintéressés. Les mères se dévouent pour avoir des enfants et se consacrent à leur éducation. Les maris donnent de même pour subvenir aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Les sacrifices impliqués dans le service d'importance éternelle rendu à notre famille sont trop nombreux pour être mentionnés et trop connus pour avoir besoin de l'être. Je vois aussi des saints des derniers jours désintéressés adopter des enfants, y compris des enfants qui ont des besoins particuliers, et chercher à leur donner l'espoir et les possibilités dont ils étaient privés auparavant. Je vous vois prendre soin de membres de la famille et de voisins qui souffrent d'anomalies congénitales, de maladies mentales et physiques et des effets de l'âge. Le Seigneur vous voit, lui aussi. Et il a dit à ses prophètes de déclarer que lorsque vous faites des sacrifices les uns pour les autres et pour vos enfants, le Seigneur vous bénit. Je pense que les saints des derniers jours qui rendent un service désintéressé et font des sacrifices en imitant avec vénération notre Sauveur observent des valeurs éternelles dans une plus grande mesure que n'importe quel autre groupe de personnes. Les saints des derniers jours considèrent leurs sacrifices de temps et de moyens comme faisant partie de leur formation et de leur qualification pour l'éternité. C'est une vérité révélée dans Lectures on Faith qui enseigne qu'une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a pas le pouvoir de produire la foi qui est nécessaire à la vie et au salut. C'est par ce sacrifice, et seulement par lui, que Dieu a décrété que les hommes pouvaient obtenir la vie éternelle. À l'image du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, qui est au centre du plan du salut, nous, les disciples du Christ, devons faire des sacrifices personnels pour nous préparer à la destinée que ce plan nous offre. Je sais que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, le Père éternel. Je sais que grâce à son sacrifice expiatoire, nous avons l'assurance d'accéder à l'immortalité et la possibilité d'avoir la vie éternelle. Il est notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur, et je témoigne de lui au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le chœur du tabernacle, les organistes et les directeurs du chœur de la belle musique qu'ils ont interprétée ce matin. Henri B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence, sera notre dernier orateur. Après le discours du président Eyring, le chœur clora la réunion en chantant « Sauveur d'Israël ». Ensuite, Wilford W. Anderson, des 70, fera la prière de clôture. Président Eyring.
I heard President Spencer W. Kimball.
Lors d'une session de conférence, j'ai entendu le président Kimball demander que Dieu lui donne des montagnes à gravir. Il a dit, il y a de grands défis devant nous, d'immenses possibilités à saisir. Je suis heureux de cette perspective passionnante et j'ai envie de dire au Seigneur humblement, donne-moi donc cette montagne, donne-moi ces difficultés. J'ai été profondément touché, connaissant certaines des difficultés et épreuves auxquelles il avait déjà fait face. J'ai éprouvé le désir d'être plus semblable à lui, un vaillant serviteur de Dieu. Un soir, peu de temps après, j'ai donc prié pour avoir une épreuve qui me permettrait de prouver mon courage. Je m'en souviens très bien. Dans la soirée, je me suis agenouillé dans ma chambre avec une foi telle qu'il me semblait que mon cœur allait éclater. Au bout d'un jour ou deux, j'ai reçu une réponse à ma prière. La plus grande épreuve de ma vie m'a surpris et rendu humble. Elle m'a donné une double leçon. Premièrement, j'ai eu la preuve claire que Dieu avait entendu ma prière faite avec foi et y avait répondu. Et deuxièmement, j'ai commencé un travail de réflexion qui est toujours en cours pour apprendre pourquoi j'ai senti avec tant de confiance ce soir-là qu'une grande bénédiction pouvait venir de l'adversité et ferait plus que compenser tout ce que cela avait pu me coûter. L'adversité que j'ai rencontrée en ce jour lointain me semble maintenant bien peu de choses comparée à ce qui nous est arrivé depuis à moi et à mes êtres chers. Beaucoup d'entre vous endurent actuellement des épreuves physiques, mentales et émotionnelles qui vous font vous écrier la même chose que l'un des grands et fidèles serviteurs de Dieu que j'ai bien connu. Son infirmière l'a entendu s'écrier sur son lit de douleur. J'ai essayé toute ma vie d'être bon. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Vous connaissez la réponse donnée à cette question par le Seigneur à Joseph Smith, le prophète, dans sa cellule. Et si tu dois être jeté dans la fosse ou entre les mains d'assassins et que la peine de mort soit passée sur toi, si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis, si les yeux s'enténèbrent et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? Maintiens-toi donc sur ta route et la prêtrise restera avec toi. Car leurs limites sont fixées. Ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Il me semble qu'il n'y a pas de meilleure réponse à la question « Pourquoi les épreuves arrivent-elles et que devons-nous faire ?» que les paroles du Seigneur lui-même, qui a été plus terriblement éprouvé pour nous qu'on ne peut l'imaginer. Vous vous souvenez de ses paroles, quand il nous a conseillé de nous repentir parfois en lui. « Je te commande de te repentir. Repens-toi de peur que je ne te frappe du sceptre de ma parole, de ma fureur et de ma colère, et que tes souffrances ne soient atroces. Et tu ne sais pas combien elles sont atroces. Tu ne sais pas combien elles sont extrêmes. Oui, tu ne sais pas combien elles sont dures à supporter. Car voici, moi Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore, et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère, mais je n'ai pas voulu non plus me dérober. Néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Vous et moi avons foi que la façon de dépasser ces épreuves est de croire qu'il y a un baume en Galade et que le Seigneur a promis « Je ne t'abandonnerai pas ». C'est ce que le président Monson nous a enseigné pour nous aider, nous et ceux que nous servons, quand il nous semble que nous devons endurer seuls des épreuves écrasantes. Mais le président Monson nous a aussi sagement enseigné qu'il faut du temps pour poser les fondements de la foi en la réalité de ses promesses. Vous avez peut-être vu le besoin de ces fondements au chevet de quelqu'un prêt à abandonner le combat et de ne pas persévérer jusqu'à la fin. Si les fondements de la foi ne sont pas ancrés dans notre cœur, la force de persévérer s'effondrera. Aujourd'hui, mon objectif est de décrire ce que je sais de la façon dont nous pouvons poser ces fondements inébranlables. Je le fais avec beaucoup d'humilité pour deux raisons. Premièrement, ce que je dis peut décourager certains qui sont aux prises avec une grande adversité et ont le sentiment que les fondements de leur foi s'effondrent. Et deuxièmement, je sais que des épreuves toujours plus grandes m'attendent d'ici la fin de ma vie. Aussi, le remède que je vous propose doit encore être testé par ma propre persévérance jusqu'à la fin. En tant que jeune homme, j'ai travaillé avec un entrepreneur qui faisait les semelles et les fondations pour les nouvelles maisons. Dans la chaleur de l'été, c'était dur de préparer le sol pour le coffrage dans lequel on allait verser le béton pour la semelle. Il n'y avait pas de machine. On utilisait une pioche et une pelle. En ce temps-là, il fallait travailler dur pour poser des fondations durables pour les bâtiments. Cela demandait également de la patience. Après avoir posé les semelles, il fallait attendre qu'elles prennent. Même si nous voulions continuer notre travail, nous devions attendre que le ciment de fondation prenne avant d'en retirer les coffrages. Et ce qui impressionnait encore plus le maçon novice, c'était ce qui semblait être un processus long et fastidieux. La pose soigneuse de barres de métal à l'intérieur des coffrages pour renforcer les fondations une fois terminées. De même, le sol doit être soigneusement préparé pour que les fondements de notre foi résistent aux tempêtes qui se présentent dans toute vie. La base solide d'un fondement de foi est l'intégrité personnelle. Le choix systématique du bien, quel que soit le choix qui nous est présenté, crée la base solide de notre foi. Cela peut débuter dans l'enfance, puisque toute âme naît avec le don gratuit de l'Esprit du Christ. Avec cet esprit, nous pouvons savoir quand ce que nous avons fait est juste pour Dieu et quand nous avons mal agi à ses yeux. Ces choix, des centaines la plupart des jours, préparent la base solide sur laquelle notre édifice de foi est bâti. La structure métallique autour de laquelle la substance de notre foi est versée est l'Évangile de Jésus-Christ, avec toutes ses alliances, ses ordonnances et ses principes. L'une des clés d'une foi durable est de juger correctement le temps de prise nécessaire. C'est pour cela qu'il n'était pas sage que je prie si tôt dans ma vie pour gravir de plus hautes montagnes et avoir de plus grandes épreuves. La prise ne vient pas automatiquement avec le temps qui passe, même s'il faut du temps. Il ne suffit pas de prendre de l'âge. C'est servir continuellement Dieu et les autres de toute son âme et de tout son cœur qui fait du témoignage de la vérité une force spirituelle inébranlable. J'aimerais maintenant encourager ceux qui sont au milieu d'épreuves difficiles, qui ont le sentiment que leur foi faiblit sous les assauts de l'adversité. L'adversité elle-même peut être le moyen de vous fortifier et de vous donner au bout du compte une foi inébranlable. Moroni, le fils de Mormon dans le livre de Mormon, raconte comment cette bénédiction peut se produire. Il enseigne la réalité douce et simple que le fait d'agir, ne serait-ce qu'avec un brin de foi, permet à Dieu de la faire grandir. Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais parler quelque peu de ces choses. Je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi ne contestez pas parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez le témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. Car c'est par la foi que le Christ se montra à nos pères lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, et ne se montra à eux que lorsqu'ils eurent foi en lui. C'est pourquoi il fallait nécessairement que certains eussent foi en lui, car il ne se montra pas au monde. Mais à cause de la foi des hommes, il s'est montré au monde et a glorifié le nom du Père et a préparé une voie pour que d'autres soient participants du don céleste, afin qu'ils espèrent ce qu'ils n'ont pas vu. C'est pourquoi vous pouvez aussi avoir l'espérance et être participant du don du moment que vous avez la foi. Le brin de foi le plus précieux que vous devriez protéger et utiliser autant que vous le pouvez est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Moroni enseigne comme suit le pouvoir de cette foi. Et jamais personne, à aucun moment, n'a accompli de miracle si ce n'est après avoir eu la foi. C'est pourquoi ils ont tout d'abord cru au Fils de Dieu. J'ai parlé à une femme qui a reçu la force miraculeuse qui suffisait pour endurer des pertes inimaginables par la simple capacité de répéter sans arrêt les mots « Je sais qu'il vit mon Rédempteur ». Cette foi et ce témoignage étaient toujours là, dans la brume qui obscurcissait, mais n'avait pas effacé ses souvenirs d'enfance. J'ai été ébahi d'apprendre qu'une autre femme avait pardonné à quelqu'un qui lui avait fait du mal pendant des années. J'étais surpris et je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi de pardonner et d'oublier tant d'années de mauvais traitements. Elle a répondu à mi-voix, « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je savais juste que je devais le faire. Alors je l'ai fait. » Sa foi que le Sauveur pardonnerait si elle pardonnait aux autres l'a préparée à ressentir de la paix et de l'espoir au moment de son propre décès, quelques mois après qu'elle a eu pardonné à son adversaire impénitent. Elle m'a demandé « Comment ça sera quand j'arriverai au ciel ?» Et je lui ai dit, autant que vous avez pu pardonner et exercer votre foi, ça sera merveilleux. J'ai un autre encouragement à l'intention des gens qui maintiennent, qui maintenant se demandent si leur foi en Jésus-Christ leur suffira pour persévérer jusqu'à la fin. J'ai eu la bénédiction de connaître certains d'entre vous qui écoutez actuellement, quand vous étiez plus jeune, plein de vie, plus talentueux que ceux de votre entourage, et qui pourtant avaient choisi de faire ce que le Sauveur aurait fait. Dans votre abondance, vous avez trouvé des façons d'aider et de vous soucier de ceux que vous auriez pu ignorer ou regarder de haut, étant donné votre situation dans la vie. Quand de grandes épreuves arriveront, la foi de persévérer sera présente, construite sans que vous l'ayez remarqué. Quand vous agissiez avec l'amour pur du Christ, en servant autrui et en pardonnant comme le Sauveur l'aurait fait. Vous avez édifié des fondements de foi en aimant comme le Sauveur a aimé et en le servant. Votre foi en lui vous a inspiré des actes de charité qui vous apporteront de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour renforcer des fondements de foi. Il est toujours temps. Par la foi au Sauveur, vous pouvez vous repentir et implorer le pardon. Vous pouvez pardonner à quelqu'un. Vous pouvez remercier quelqu'un. Vous pouvez servir et encourager quelqu'un. Où que vous soyez, et même si vous vous sentez seul et délaissé, vous pouvez le faire. Je ne peux pas vous promettre que votre adversité finira dans cette vie. Je ne peux pas vous assurer que vos épreuves vous paraîtront ne durer qu'un moment. L'une des caractéristiques des épreuves de la vie est qu'elles semblent ralentir le temps jusqu'à presque l'arrêter. Il y a des raisons à cela. Le fait de connaître ces raisons peut ne pas beaucoup réconforter, mais cela peut donner un sentiment de patience. Ces raisons viennent toutes de ce même fait. Dans leur amour parfait pour vous, notre Père Céleste et le Sauveur veulent que vous soyez façonnés pour être avec eux dans une famille éternelle. Seuls les gens qui seront parfaitement purifiés et changés par l'expiation de Jésus-Christ seront là. Ma mère a combattu le cancer pendant près de 10 ans. Entre autres épreuves, elle a connu les traitements, les opérations et enfin l'alitement. Je me souviens de ce qu'a dit mon père quand il l'a regardé rendre son dernier soupir. Une petite fille est rentrée à la maison se reposer. L'un des orateurs à ses funérailles était Spencer Kimball. Je me souviens que dans l'hommage qu'il lui a rendu, il a dit en substance « Certains peuvent penser que Mildred a tant et si longtemps souffert parce qu'elle avait fait quelque chose de mal qui requérait ses épreuves. Non, c'est simplement que Dieu voulait qu'elle soit un peu plus polie par l'adversité. » Si nous avons la foi en Jésus-Christ, les moments les plus difficiles comme les plus faciles de la vie peuvent être une bénédiction. En toutes circonstances, nous pouvons choisir le bien avec l'aide de l'Esprit. Si nous le choisissons, nous avons l'Évangile de Jésus-Christ pour donner forme à notre vie et la guider. Et avec des prophètes qui nous révèlent notre place dans le plan du salut, nous pouvons vivre avec une parfaite espérance et un sentiment de paix. Nous n'aurons jamais aucune raison de nous sentir seuls ou mal aimés au service du Seigneur, parce que nous ne le sommes jamais. Nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Le Sauveur a promis que des anges, à notre droite et à notre gauche, nous soutiendront. Il tient toujours ses promesses. Je témoigne que Dieu le Père vit et que son Fils bien-aimé est notre Rédempteur. Le Saint-Esprit a confirmé la vérité pendant cette conférence. Il le fera encore si vous la recherchez, en écoutant et en étudiant plus tard les messages des serviteurs autorisés du Seigneur qui sont ici. Le président Munson est le prophète actuel du Seigneur pour le monde entier. Le Seigneur veille sur nous. J'en témoigne. Son Fils Jésus-Christ est notre Rédempteur. J'en témoigne. En son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, alors que nous concluons cette session de conférence, nos cœurs sont pleins de gratitude, de reconnaissance pour ce que nous avons entendu et ressenti. Nous sommes si reconnaissants pour notre prophète, président Thomas S. Monson. Nous unissons pour le soutenir et l'aimer et prier pour lui, pour que tu le fortifies. Alors qu'il doit assumer cette lourde charge et responsabilité. Nous prions afin que tu bénisses chacun d'entre nous alors que nous quittons cette session pour être déterminé à faire mieux, être plus charitable, spécialement dans nos foyers. Nous sommes conscients d'être tes enfants et que nous devons aider ceux qui souffrent et qui sont dans le deuil. Bénis-nous afin que nous fassions notre possible pour alléger les souffrances et encourager et aider ceux qui en ont besoin et à pouvoir toucher les cœurs vers ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions d'hâter le jour où tes enfants pourront aimer en unité et en paix. Et nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la première session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.